Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à la défense française et pour laquelle nous recevons le général Vincent Desportes. Mon général, bonjour.
Bonjour.
Nous, c'est-à-dire Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Jean-Louis Bourlange, essayiste. Mon général, le 29 octobre 2015, invité à France Inter à l'occasion de la parution de votre essai « La dernière bataille de France » dans la collection « Le débat » chez Gallimard, vous évoquiez la forte possibilité d'attentats de masse en France et vous redoutiez qu'un tel événement soit nécessaire pour que les autorités politiques prennent conscience de la menace et de l'insuffisance des moyens pour y faire face. Moins de 15 jours plus tard, comme on sait, les attentats de Paris faisaient 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Les armées françaises sont aujourd'hui engagées dans plus d'une dizaine d'opérations militaires en dehors de nos frontières, notamment en Côte d'Ivoire, en Irak et en Syrie, en République démocratique du Congo et au Mali. Elles n'ont jamais été déployées sur autant de théâtres d'opérations extérieures, or elles n'ont jamais connu un rythme aussi rapide de paupérisation et de dégradation de leurs capacités. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale qui fixe les orientations stratégiques militaires des années à venir reconnaissait en 2008 puis en 2013 un contexte international marqué par l'incertitude, l'augmentation de l'instabilité mondiale, le réarmement du monde hors Europe et l'inévitable montée des risques et des menaces. La loi de programmation militaire pour 2014-2019, adoptée en 2013, n'en poursuit pas moins la politique de diminution des moyens de Nicolas Sarkozy. Toutefois, le président Hollande a annulé la suppression des 34 000 postes prévus par la loi et il a annoncé en avril 2015 une rallonge budgétaire de 3,8 milliards d'euros sur une période de 4 ans. Cette même loi a sanctuarisé une politique de dissuasion nucléaire qui consomme un budget de 3,5 milliards d'euros par an et elle a lancé un programme de cyberdéfense et de protection des systèmes d'information. Aujourd'hui, les dépenses liées à la sécurité, la diplomatie, la défense et la justice ne dépassent pas en tout 2,8% du PIB, alors qu'elles représentaient 4,5% en 1990. La part de la seule défense s'élevait en mai dernier à 1,5% du PIB. Le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, a plaidé en faveur d'un budget annuel de 2% du produit intérieur brut pour la défense, conformément d'ailleurs au seuil fixé requis par l'OTAN. Vous affirmez que les 70 ans de paix qu'a connue l'Europe ont fait reculer l'idée de guerre dans les esprits européens, alors même qu'elle prospère en dehors. Entre 2013 et 2014, 21 membres de l'OTAN sur 28 ont réduit leur budget et l'effort de défense cumulé des États de l'Union européenne a baissé en 2014 de 1,58%. Parallèlement, la Russie a investi massivement dans la défense. Elle est devenue le troisième budget militaire mondial après les États-Unis et la Chine. En 2012, déjà, les dépenses militaires de l'Asie avaient dépassé celles de l'Europe. Général Vincent Desportes, vous êtes Saint-Cyrien, vous êtes ingénieur, vous êtes docteur en histoire et ancien directeur de l'école de guerre. Vous êtes aujourd'hui professeur associé à Sciences Po Paris et vous enseignez la stratégie à HEC. Vous êtes réputé pour votre franc-parler. En 2010, d'ailleurs, lorsque vous avez critiqué la politique de l'Occident en Afghanistan, cela vous a valu d'être débarqué par le ministre de l'époque, Hervé Morin, de votre poste de directeur du Collège interarmé de défense. Et à l'image du ton de votre essai « La dernière bataille de France » que vous avez publié l'an dernier. Vous parlez, mon général, de la défense européenne comme d'un oxymore. L'organisation d'un système européen de défense est-il à vos yeux impossible? Quelle est la place de la France dans la défense européenne? Comment voyez-vous l'avenir des relations militaires entre la France et les États-Unis qui effectuent un pivot stratégique vers l'Asie et se désintéressent peu à peu, selon vous, de l'ancien continent? Voilà quelques-unes des questions que nous serons sans doute amenés à aborder avec vous. Mais avant de vous solliciter autour de ces trois thèmes et de quelques autres, peut-être un mot de la controverse qui vous a occupé, qui vous a opposé il y a déjà quelques semaines à Alain Juppé à propos du droit d'expression des officiers généraux.
Écoutez, les choses sont simples. Je trouve que le mépris est insupportable, d'où qu'il vienne, et à quelques personnes qu'il s'adresse. Dans ses propos, monsieur Juppé, involontairement ou non, a été méprisant pour les militaires. Je ne pouvais pas, ma conviction est que je ne pouvais pas laisser passer cela. J'ai donc écrit une tribune, et le Monde a considéré que le problème était suffisamment important pour placer cette tribune en son centre. Voilà.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, il n'est pas sûr que le monde ait été animé uniquement de la volonté de rendre à votre pensée toute la place qu'elle méritait. Je pense que dans les jeux politiciens autour des primaires, ça a pu jouer un petit rôle aussi. Enfin, oui, moi je voulais vous dire, je suis très solidaire de votre combat pour la liberté d'expression des militaires. Moi, j'ai toujours une grande sympathie pour les militaires. J'ai été 8 ans professeur à Coëtquidan, et j'ai toujours eu un contact très, très positif et très heureux, avec le rapport entre l'intelligence, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'intelligence militaire est un oxymore, et military intelligence, comme disent les Américains, mais je suis très sensible à ce combat, et je crois que si la pensée militaire a été si mauvaise, si inadaptée en France, dans l'entre-deux-guerres, et même avant, tout au long du 19e siècle, c'est en grande partie en raison de ce mal que vous dénoncez, qui est le mal de la grande muette, quoi. On la boucle, etc. Et on a bien vu que depuis, après Napoléon, qui avait pas mal d'idées, faut reconnaître, on a eu une espèce de stérilisation progressive, on est toujours arrivé en retard aux guerres. En revanche, moi, j'ai quand même été un peu choqué par deux choses dans votre attitude. Premièrement, si vous avez raison de dire que le propos de Juppé était méprisant, ce qui d'ailleurs il a reconnu, parce qu'il a reconnu qu'il avait fait une gaffe, c'est pas la première fois qu'il a des petits défauts psychologiques qui s'expriment. En revanche, vous avez été très méprisant. Vous avez été très méprisant dans votre interview, et notamment pour l'ensemble des hommes politiques. Et alors, je veux bien que les hommes politiques méritent toutes les peines, mais là, je trouve que c'est choquant parce que, fondamentalement, il y a une relation de dépendance à l'égard des hommes politiques. Vous dites on doit être fidèle à la nation et pas au gouvernement. Autant il est normal que le général de gendarmerie dont il était question, et ça, vous avez tout à fait raison de le dire, et parler franchement sans obéir à sa hiérarchie.
Oui, il faut que je rappelle que c'est parce que ce général de gendarmerie a pris la parole, d'abord d'ailleurs devant une commission d'enquête parlementaire, pour dire des choses qui n'allaient pas dans le sens du gouvernement, qu'il a été sanctionné et que Alain Juppé a confirmé à ses yeux la nécessité de ces sanctions en disant c'est comme un ministre, un militaire, notamment un officier général, ça démissionne ou ça ferme sa gueule.
Et la deuxième chose qui m'a un peu troublé, c'est quand même que j'ai senti un peu de corporatisme. Quand vous dites c'est les militaires qui savent, ce sont eux, etc. Moi, je crois que les militaires savent et que les non-militaires savent aussi. Que c'est la même chose avec les juges, c'est la même chose avec les profs, c'est la même chose avec les cheminots. Si on s'en tient à la parole des experts concernés, ils ont des choses à dire, évidemment très importantes, mais en même temps, ils sont dans l'affaire. Or, il faut, comme dit l'autre, Auguste Comte, il y a des gens qui marchent dans la rue, puis il y a des gens qui regardent par la fenêtre. Et la vérité, elle naît de la confrontation des deux. Donc, je trouve que vous avez été, en d'autres termes, un peu fort.
Général Desportes.
Alors, moi, je ne pense pas avoir été méprisant vis-à-vis des hommes politiques. Par contre, je suis totalement méprisant vis-à-vis des politiciens. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de ceux qui s'appellent des hommes politiques sont en fait des politiciens. C'est exactement ça. Et la difficulté, c'est que les militaires ont peut-être une conscience du temps long davantage que ceux qui devraient représenter la nation, avec aujourd'hui une séparation entre ceux qui sont l'État et ceux qui devraient représenter la nation. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de voix s'élèvent dans la nation pour dire attention, ceux qui dirigent, ceux qui devraient diriger la nation, le font en fonction d'intérêts politiciens de court terme. Je pense, vous avez parfaitement raison de dire que les militaires ne sont pas seuls à savoir. Et d'ailleurs, dans mon dernier ouvrage, La bataille de France, je dis bien que la guerre est une chose beaucoup trop compliquée pour être comprise soit top-down, soit bottom-up. Et que donc la compréhension doit être l'objet des réflexions de ceux qui regardent par la fenêtre, comme vous dites, et de ceux qui sont dans la rue. Mais si à un moment donné on ne laisse pas parler ceux qui sont dans la rue, alors il n'y a qu'une seule vision. Les grandes erreurs stratégiques, je pense par exemple à l'opération Harmattan en Libye en 2011, elle est lancée pas à cause d'une incompréhension de ce qu'est la guerre, parce que les militaires ne se sont pas suffisamment exprimés. Et je regarde dans les grandes démocraties, je regarde la démocratie américaine ou la démocratie britannique par exemple. Eh bien, la voix des militaires est non seulement entendue, mais elle est exigée. Parce qu'on sait bien que l'équilibre se trouve entre les visions politiques et les visions plus techniques. C'est ça mon propos. Oui,
sur la Libye, mon général, je serai encore plus critique que vous. C'est pas parce que les militaires n'ont pas été interrogés, c'est parce qu'ils ont parlé qu'on les a pas écoutés. C'est le développement qu'a connu la situation en Libye depuis ces opérations de 2011 avait été annoncé et prévu par un certain nombre de vos camarades militaires. Mais laissons, si vous voulez bien, la place des militaires.
Je me permets de préciser que les affaires irakiennes, c'était la même chose. Moi, j'avais la chance d'être aux États-Unis quand les affaires ont été lancées entre 2002 et 2003. Pendant très longtemps, le Pentagone s'est opposé à cette guerre. Ensuite, le général Franck qui commandait s'est mis au garde à vous et essayait de trouver la meilleure solution pour remplir. Mais là encore, à ce moment-là, c'est parce que la voix des militaires n'a pas suffisamment été écoutée qu'on est parti vers une guerre qui a produit cette désintégration du Moyen-Orient qu'on connaît aujourd'hui.
Nous allons donc maintenant entendre sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure la voix d'un militaire, en l'occurrence vous, Nicole Niesoto.
Merci beaucoup de cette
promotion.
Vraiment, je suis tellement troublée que
non, c'est parce que vous avez la bonté de vous mettre le petit doigt sur la couture de la jupe quand je vous demande de venir à l'esprit public.
Non, moi je voudrais revenir au cœur de votre analyse dans l'ouvrage La dernière bataille de France. Vous partez d'un constat qui est effectivement assez irréfutable, un double constat d'ailleurs, qui est les budgets baissent et les menaces augmentent. Donc ça, je crois que là-dessus, on peut difficilement vous critiquer. Et à partir de ce constat, vous dénoncez de façon virulente le manque de moyens des armées françaises dans une période de surengagement dans les opérations extérieures. Alors, c'est indéniable que les menaces augmentent depuis quelques années. Elles sont simultanées, durables, difficiles. La Russie, Daesh, le terrorisme, la dégradation de l'Afrique, la désintégration du Moyen-Orient, etc., etc. Mais je voudrais quand même nuancer un peu les choses et vous dire, par exemple, que les menaces augmentent, mais elles ne sont pas toutes passibles de solutions militaires. Et une bonne partie des nouvelles menaces qui caractérisent aujourd'hui l'insécurité de la France et l'insécurité de l'Europe ne sont pas passibles de réponses ou d'engagements militaires de la France. Je prends par exemple la Russie. On ne va pas commencer la 4e guerre mondiale contre la Russie. Je prends même le terrorisme. Même si on mobilise l'armée française dans l'opération Sentinelle, le terrorisme ne se règle pas à coup de menaces militaires. Donc, ce n'est pas parce que les menaces augmentent que les moyens militaires, en particulier des armées de terre, doivent forcément augmenter. Premier point. Deuxièmement, même quand les menaces sont passibles de solutions militaires ou d'interventions militaires, l'histoire montre, et vous êtes le premier dans votre livre à le montrer, que les interventions militaires sont rarement efficaces. Et vous avez toute une critique, notamment de la politique américaine depuis presque 20 ans, en montrant que la première puissance militaire du monde, qui dépense plus de la moitié des dépenses militaires mondiales, n'arrive pas à gagner la moindre guerre. Donc, là aussi, ce n'est pas parce que les menaces augmentent qu'il faut plus de moyens militaires, voire même plus d'interventions. Et dernier point, là je crois que c'est très important, ces menaces, elles ne concernent pas que la France. Nous ne sommes pas seuls à être menacés. L'ensemble de nos partenaires européens sont menacés. Alors se sentent menacés différemment selon qu'ils habitent au nord en Lituanie ou au sud en Italie. Mais il y a quand même une conscience collective des menaces et qui me fait réfuter le point qui je crois est quand même en filigrane dans votre livre, qui est de dire on ne peut pas compter sur les Européens, ils font rien, on ne peut pas compter sur l'OTAN parce que l'Amérique se désengage. Donc il faut que la France soit seule à se défendre et si possible à défendre l'Europe. Et là, je crois quand même que c'est un peu irréaliste.
Général Desportes.
Oui, alors, sur le dernier point, moi je parle d'un constat. Ça fait exactement 60 ans qu'on essaye de construire l'Europe de la défense et qu'on est arrivé à rien. Je dis donc aujourd'hui, certes, il n'y a pas eu plus européens que les militaires, parce qu'on leur a dit d'être européens, ils l'ont été énormément. Et puis ils constatent aujourd'hui que quand ils sont en train d'adresser un problème qui concerne toute l'Europe, par exemple, dans la bande sahélo-saharienne, eh bien ils sont seuls à le faire, alors que ce problème-là concerne toute l'Europe. Et donc je dis qu'aujourd'hui, il faut continuer à aller vers l'Europe de la défense, parce que je sais qu'elle est absolument nécessaire, mais qu'en même temps, un État responsable ne peut pas se priver d'assurer lui-même les moyens de la défense de l'État, de la nation. C'est ce que je dis. Je dis donc aujourd'hui, posons le problème autrement. Arrêtons ce processus qui ne produit rien. Admettons que nous devons nous-mêmes nous protéger tout en allant vers l'Europe. C'est ça mon affaire vers l'Europe. Alors je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que toutes les menaces ne sont pas d'ordre militaire. Moi je me bats pour ce que je sais à peu près. Je sais qu'aujourd'hui il y a une décorrélation entre les missions confiées aux armées, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, j'en sais rien. Mais en tout cas il y a une décorrélation entre les missions et les moyens. Et moi, je suis un technicien. Là, je regarde pas de la fenêtre. Je suis dans la rue. Et je dis, moi, expert de la guerre. Je dis, là, vous n'êtes pas raisonnable. Vous ne pourrez pas parvenir à un résultat stratégique si vous ne réalisez pas l'adéquation entre les moyens et les missions. Reste politique à choisir. Est-ce que j'augmente les moyens ou est-ce que j'ai diminué les missions? Et là, la question des missions que vous posez, c'est votre deuxième question, est parfaitement raisonnable. Moi, je pense effectivement que compte tenu de ces moyens, la France est déployée sur beaucoup trop de théâtres. Et en particulier, la question se pose très sérieusement pour l'opération Chamal contre Daesh. Même si Daesh est une menace, nous ne pouvons pas tout faire, et en tout cas, on ne peut pas faire Barkhane au Sahel et Chamal. Et donc, on ne parvient à rien dans les deux cas. Nous ne sommes rien, comme d'habitude, ou presque rien, au Moyen-Orient, parce que nous pesons très peu, parce que nous avons très peu de moyens militaires, et nous ne parvenons pas à résoudre notre problème dans le Sahel, parce que nos moyens sont largement insuffisants. Or, nous sommes d'abord concernés par le Sahel. C'est le problème français, bien avant le problème du Moyen-Orient.
François Buchon de l'Étang.
Mon général, je voudrais d'abord rendre hommage à votre liberté d'esprit et de parole, qui est en effet fort appréciable. Et pour avoir vécu comme vous très longtemps aux États-Unis, j'ai vu à quel point dans d'autres pays, dans d'autres grandes démocraties, effectivement, les militaires prennent part au débat public et à quel point cette prise de participation est utile. Et puis, je voudrais rendre hommage aussi à la clarté de vos analyses qui sont extrêmement intéressantes parce que le point central est celui que vous venez de toucher. C'est d'ailleurs pas la corrélation entre les moyens et les menaces que vous mettez en cause, c'est surtout la corrélation entre les moyens et les missions et le nombre de missions sur le terrain qui sont demandées et qui sont en effet en croissance exponentielle. Alors, dans vos analyses, vous en prenez, si j'ose dire, à deux vaches sacrées qui sont extrêmement importantes. L'une, c'est le nucléaire, la sanctuarisation de notre outil de dissuasion, qui est toujours un alpha et un oméga de toute loi de défense ou de tout nouveau président de la République parlant des problèmes militaires. Et la comparaison avec la ligne Maginot vient spontanément à l'esprit. Elle vient sous votre plume aussi, d'ailleurs. Vous parlez de marchand de sable aussi, j'ai bien aimé cette formule. La dissuasion nucléaire, un marchand de sable qui endort les Français sur leur défense, au fond. Alors, que faut-il vraiment penser? Est-ce que la sanctuarisation de la dissuasion est véritablement une erreur? Est-ce que l'entretien de cette illusion est une erreur? Parce que c'est quand même la singularité française qui est en cause, là. Alors, au fond, plus que l'existence de la dissuasion, vous ne remettez nullement en cause ou son utilité, vous mettez en cause, à juste titre, le fait qu'on la monte en épingle ou qu'on la sanctuarise et qu'on ne garde pas suffisamment à l'esprit l'équilibre qu'il faut maintenir entre l'outil, disons, conventionnel et l'outil nucléaire. Je pense que c'est cela. Puis la seconde vache sacrée à laquelle vous tordez le cou au passage, ou les cornes, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est l'OTAN. Et vous le faites d'une façon assez gaullienne, au fond. Vous dites, l'OTAN, c'est un truc très très bien qui permet aux Américains d'asseoir leur domination sur l'Europe, mais qui a endormi les Européens et qui les a amenés à se remettre complètement aux mains des Américains. Alors, en ceci, vous rejoignez, de façon intéressante, le président Obama, qui vient exactement de faire ce procès aux Européens dans l'interview qu'il a donnée à Jeffrey Goldberg dans l'Atlantic Monthly. Il dit, les Européens ont perdu l'esprit de défense parce qu'au fond, ils ont vécu à nos crochets, si j'ose dire. Et ils ont raison. Mais je trouve très intéressant cette dénonciation chez vous, en un moment où la France est rentrée dans l'OTAN, ce que plus personne ne remet en cause, mais où nous sommes effectivement les premiers à nous plaindre du fait que les Européens ne nous aident pas, que nous sommes seuls au Mali ou en tout autre endroit, et qu'au fond, on ne le dit pas, mais ce qui est sous-jacent dans tout ça, c'est que la défense européenne, qui reste notre horizon, vous venez de le rappeler, est largement une incantation.
Général Desportes.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites du président Obama, parce que vous vous rappelez en quelque sorte, là, toute l'ambiguïté de la position américaine vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Europe de la défense. Je crois que la position, mais vous connaissez ça mieux que moi, monsieur l'ambassadeur, de l'Amérique vis-à-vis de l'Europe, c'est que l'Amérique ne veut pas d'une Europe aboutie. L'Amérique veut une Europe en perpétuel devenir, qu'elle arrive quand même à dominer, à guider, etc.
Mais elle réclame le partage du fardeau.
Mais en même temps, elle réclame le partage du fardeau. Et les États-Unis plutôt, ont du mal à comprendre ou n'acceptent pas l'idée que leur intérêt est de libérer l'Europe de leur propre mainmise. Alors peut-être y arriverons-nous, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc il y a effectivement une ambiguïté. Alors je reviens sur l'OTAN, c'est votre question précédente, plutôt votre question. C'est comme pour la technologie, c'est comme pour les autres éléments. Je crois qu'au bout d'un moment, on sait bien que les aventures humaines sont une succession de micro-décisions qui sont rarement prises avec une vision. Donc, une vision générale. Donc, au bout d'un moment, il faut voir où on va. Et je dis que l'OTAN, aujourd'hui, est le principal ennemi de la défense européenne. Parce que s'il n'y avait pas l'OTAN, comme vous l'avez dit, ou si l'OTAN avait cessé d'exister quand sa raison d'être avait disparu, eh bien, nous aurions aujourd'hui, évidemment, 17 ans après, une défense européenne. Et nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que l'OTAN, comme toutes les institutions humaines, a cherché à perdurer dans son être. S'est trouvé de nouvelles missions dans lesquelles elle a été mauvaise. Je pense à l'Afghanistan. Aujourd'hui, peut-être, l'OTAN est-elle en train de se reconstruire un ennemi avec cette montée des tensions entre l'Occident et la Russie, qui est particulièrement dangereuse. Donc je dis, pour ces deux éléments-là, l'OTAN vit, cherche à se créer un ennemi peut-être, et en même temps empêche la maturité géopolitique ou la maturité stratégique de l'Europe. Je pense donc que l'OTAN est devenu un danger. Faut-il dissoudre l'OTAN ? Ma réponse est non, parce que l'OTAN est un outil remarquable d'interopérabilité, d'entraînement des états-majors qui fonctionne. Donc la réponse aujourd'hui, c'est conservons l'OTAN, mais demandons aux États-Unis de la quitter. C'est ça. Et là, on arrivera à nouveau à faire une Europe de la défense qui va monter en crâne extrêmement rapidement, parce qu'on aura les outils et on aura la liberté. La réponse à la sécurité de l'Europe, c'est que les Américains quittent l'OTAN.
Jean-Louis voilà. Bourlange.
Oui. J'ai pas répondu à la première question.
Il en reste une. Vous avez raison.
Et la dissuasion, c'est tout à fait important. Jean Guinel, qui se préoccupe d'affaires, qui écrit dans le point, posait très récemment le problème de manière extrêmement claire dans un de ses articles. Il disait, au fond, c'est simple. Les gouvernants et les futurs gouvernants ne le disent pas. Mais entre 2020 et 2030, il n'y a pas d'autre choix que de faire progresser très considérablement le budget de la dissuasion, si on veut la conserver au même niveau, parce qu'on devra refaire des sous-marins, relancer des modernisations à mi-vie, etc. Donc il dit très clairement, soit vous augmentez le budget de la défense pour financer cette modernisation de la dissuasion nucléaire, soit eh bien, vous écrasez complètement la défense conventionnelle, et dans ce cas, ce que vous avez fait sur le nucléaire n'a plus de sens, puisque s'il n'y a pas une connexion entre le conventionnel et le nucléaire, l'édifice... Bon. Donc on est bien aujourd'hui dans une impasse. Et il faut traiter le problème. Il faut juste adresser le problème. Je crois à la dissuasion, mais il faut là aussi constater ses effets pervers sur la défense en tant que système.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que vous êtes admirable dans votre réquisitoire. Vous avez une âme de procureur et vos dossiers sont vraiment extrêmement bien instruits, extrêmement documentés, extrêmement convaincants. Il en résulte pour votre lecteur une impression assez vertigineuse d'inquiétude. Par exemple, les trois choses qu'on a évoquées, la défense européenne, vous dites oui, je suis pour, mais franchement, vous avez tout à fait raison. C'est de la blague. Ça n'a jamais existé. Je ne sais pas si ça existera. Et les raisons pour lesquelles ça n'existe pas sont très profondes. Notamment, elles tiennent quand même à l'allergie persistante de l'Allemagne, pour des raisons historiques très évidentes, de l'Allemagne au rapport à la violence, à la force. Deuxièmement, vous évoquez toute votre stratégie est un peu gaulliste. En fait, on sent bien l'influence, et je comprends très bien, mais paf! Ce que vous enlevez du gaullisme, c'est la dissuasion. Or, la capacité de la France à mener une stratégie autonome sur le plan militaire reposait quand même sur ce que le brave général Gallois appelait le pouvoir égalisateur de l'atome. À partir du moment où vous enlevez ça, on revient au gros bataillon, on revient à des concepts ou à des gros bataillons ou à des bataillons sophistiqués. Enfin, mais en même temps, vous critiquez aussi, à juste titre, l'excès technologique par rapport à la mobilisation. Donc, on a quand même quelque chose de bon. Vous critiquez l'OTAN. Là, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec vous. C'est comme vous expliquez, vous affirmez comme une corrélation, ce qui me paraît plutôt une simultanéité, l'effondrement de l'esprit de défense et en Europe et le l'OTAN. Je crois que à l'époque où l'OTAN jouait vraiment son rôle, il y avait un esprit de défense qui était relativement important parce que on avait une menace qui était clairement perceptible, qui était la Russie. À partir des années 90, on cesse effectivement à tort de percevoir la Russie comme un danger, et donc on s'effondre. Et on n'a aucune... Quand on compare la situation aujourd'hui à celle qu'elle était quand François Mitterrand a fait son discours à Berlin en 83, appelant à l'installation d'euromissiles Pershing face au SS-20 soviétique, on mesure à quel point nous sommes désarmés. Donc là, mais sur l'OTAN, vous dites l'OTAN sans les États-Unis, mais c'est comme la soupe aux choux sans choux, l'OTAN sans les États-Unis. L'OTAN a été formé non pas d'une coalition entre les Européens et les Américains, mais d'une imbrication profonde des Européens et des Américains, imbrication rendue possible et acceptable par les Allemands, par les Français, par les Néerlandais, parce que l'Amérique avait une position dominante. Jamais les Français ne se sont sentis à l'aise dans une coalition avec uniquement un pilier européen. Jamais les Allemands ne seraient sentis à l'aise dans un pilier européen face aux Français. Et jamais les Néerlandais ne seraient sentis à l'aise face aux Allemands et aux Français. Donc on est bien dans une situation où c'est le maillage qui a été dès l'origine, on peut trouver ça bien ou mal, ça je... Bon. Et là, on est dans cette situation où, donc... Et alors, ce que je ne vois pas, c'est ce que vous proposez. Et quand vous analysez également les buts de guerre, vous dites, à juste titre, on fait des trucs au Sahel, des opérations de coups de poing, mais en fait, tout ça est voué. On n'a pas de politique au Moyen-Orient. Et tout ce que vous avez dit, on l'a dit ici, nous sommes entièrement d'accord sur l'attitude de la France vis-à-vis de Daesh, etc., l'hypertrophie des mots par rapport à la réalité des moyens, etc. Mais en même temps, quelle est la politique que vous préconisez? Quelle est la politique que vous préconisez vis-à-vis de Poutine? On sent très bien les critiques, mais on est saisi de vertige parce qu'on ne voit pas les concepts alternatifs au-delà de l'augmentation légitime des moyens que vous voulez mettre en œuvre.
Général Desportes.
Alors, moi, toutes les solutions, je ne les ai pas. Je suis un homme qui fait un constat et je dis ce qui y est aujourd'hui ne va pas. Donc, je dis, c'est la dernière bataille de France, il faut se réveiller. Ce cri, c'est un cri avant les présidentielles. Je dis, ces problèmes-là doivent être adressés de manière sérieuse, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. Moi, je ne suis pas là pour apporter des réponses, j'en ai un certain nombre, mais mes réponses sont toujours dans la logique. Je dis par exemple sur les opérations dont vous parlez, aujourd'hui la France s'est surexposée stratégiquement et n'en a pas tiré des conclusions en termes de posture militaire et sécuritaire, c'est tout. Et je dis c'est déraisonnable en tant que politique d'État. Voilà ce que je dis, c'est un constat. En ce qui concerne l'OTAN et les États-Unis, alors il y a le monde qui fut et il y a le monde qui va. Et le monde qui fut, c'est un monde dans lequel les États-Unis... allaient probablement participer à la défense de l'Europe si l'Europe avait été attaquée par l'Union soviétique. Mais dans le monde qui sera, ce ne sera plus le cas. Je rappelle qu'en 2040, les Américains ne seront plus majoritairement caucasiens, comme ils disent, et que donc ce réflexe de défense de la grand-mère patrie n'existera plus. Je rappelle, autre argument fondamental, que quand les États-Unis viennent se battre en France en 1917 et en 1944, ils le viennent pour remettre de l'ordre dans leur marché principal qui est l'Europe. Or, leur marché principal maintenant est en train de devenir le Pacifique. Et puis, je rappelle que le soldat Ryan est venu à cause de ce lien charnel qu'il avait avec l'Europe, mais que l'Américain de 2040 s'appellera Ramos et plus Ryan, et que donc il ne reviendra plus naturellement se battre chez nous, et que donc le monde qui sera n'est pas le monde qui fut. Et tout ce que vous avez dit qui était parfaitement justifié quand la menace était commune, ne le sera plus. Et donc, nous devons arriver à retrouver notre autonomie stratégique. C'est tout ce que je dis. Sur l'affaire de la dissuasion, je dis ne sacralisons pas De Gaulle. Le premier principe de la guerre de Gaulle n'a qu'un principe de la guerre, c'est le principe de l'adaptation. C'est pas parce que De Gaulle, à juste titre, au moment où il fallait, a conçu ou a continué sur l'idée de dissuasion, qui n'est pas lui, mais enfin, qui... C'était parce que le monde était tel qu'il est. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait fait évoluer cette affaire-là. On ne peut pas rester arc-bouté sur des positions qu'il a prises il y a maintenant un demi-siècle. Ça ne paraît pas raisonnable. Alors, la dissuasion, je dis, la dissuasion est nécessaire. C'est bien ce que je dis. Je dis aujourd'hui simplement, regardons, si nous sacralisons la dissuasion et si nous nous lançons, je le disais tout à l'heure, dans les programmes de modernisation qui sont aujourd'hui prévus, eh bien demain, la France conservera son assurance vie, mais ne sera pas capable de s'assurer contre les problèmes de tous les jours, contre les colonnes de djihadistes qui vont prendre les 6000 Français en otage à Bamako, ou contre ceux qui sont dans le Sahel. Donc je dis simplement, regardez, vous allez dans le mur. Donc trouver le juste équilibre. En ce qui concerne les menaces, vous avez parfaitement raison. Nous sommes en particulier à partir de 1989, l'Europe est complètement tombée dans une illusion du monde. Et l'Europe a cru, avec les États-Unis d'ailleurs, que parce qu'elle avait tué la guerre en son sein, elle l'avait tuée dans le monde entier. Et c'est faux. Mais effectivement, ce sentiment de l'existence de la guerre comme phénomène humain qui ne peut pas disparaître de la Terre, ce sentiment-là a disparu. Donc le sentiment de la nécessité de la défense a disparu. D'où mon livre, d'où d'autres livres disent « Attention, c'est pas parce que vous avez cru avoir tué la guerre que la guerre est morte. Elle n'est pas morte. Au contraire, le cercle de feu est en train de se refermer autour de vous et vous devez vous protéger. »
Nicole Nisotto.
Oui, d'abord sur l'OTAN, moi je partage largement votre analyse sur le fait que l'OTAN a été pour les Européens une école de déresponsabilisation stratégique. Je partage cette analyse depuis très longtemps.
Oui, mais avant 89. C'est une depuis la.
Bien sûr. Depuis sa création, oui, donc c'est 60 ans de déresponsabilisation.
Le mouvement pacifiste depuis 89 est d'une autre nature, c'est ça que je voulais dire.
Mais ce qui me frappe dans vos propos et que je partage, c'est à quel point nous sommes différents des autres Européens. Et j'imaginais, en vous entendant dénoncer l'OTAN comme un danger, j'imaginais si nous avions eu à votre place un Allemand ou un Lituanien, ils nous auraient tenu le discours inverse, c'est-à-dire l'Europe de la défense est un danger. D'une part, parce qu'elle menace la solidité du lien atlantique, elle peut encourager les pires dérives américaines, c'est-à-dire le retrait d'Europe pour aller voir ce qui se passe en Asie au 22e siècle. Et enfin, c'est un danger parce qu'elle ne protège pas. L'Europe de la défense n'a aucun moyen de nous protéger des manigances ou des manipulations de la Russie. Et donc, tout cela pour dire à quel point la question de la défense européenne et donc la question de son lien avec l'OTAN est une question politique. Ça n'est pas une question de moyens, ça n'est pas une question de budget. Je crois que les perceptions, malheureusement encore aujourd'hui en Europe, sont très très différentes et nous sommes quand même encore les seuls à penser que l'OTAN peut être non seulement une solution pour dissuader la Russie éventuellement, mais un problème pour la défense européenne. Alors, ça m'amène à une question sur l'avenir. Je crois qu'il y a deux options. Soit on considère que l'OTAN est un danger, l'Europe de la défense est impossible, et donc il n'y a que la France seule. Et j'ai quand même un peu tendance à penser que c'est votre analyse. Soit on considère à l'inverse qu'il y a de plus en plus de risques, il y a de moins en moins d'Amérique, et que l'équation est simple, plus de risques, moins d'Amérique, égale plus d'Europe, mais c'est là où il faudrait mettre absolument la priorité.
Général Desportes.
J'en suis absolument persuadé. Moi, je dis bien, c'est la France, parce que Monsieur Juncker disait il y a quelques mois, la défense de l'Europe, c'est l'armée française. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Européen. Donc, c'est que quelque part, il y a une vérité. Mais vous avez bien levé le problème, énoncé le problème essentiel. C'est que l'Europe n'a pas de vision commune, n'a pas une perception des menaces communes. On dit aujourd'hui, et c'est vrai, qu'en 2016, globalement, les budgets européens de la défense vont s'élever. Mais il y a trois Europes. Il y a l'Europe orientale. Là où on a une croissance importante des budgets, il y a l'Europe du Nord qui s'en fiche complètement avec des budgets qui continuent à descendre, et puis il y a les budgets français, britanniques qui frémissent un tout petit peu. Donc on voit bien, ça prouve bien cette réaction entre l'évolution des budgets et la menace prouve bien qu'il y a des perceptions extrêmement différentes. Le problème de l'Europe aujourd'hui, je suis peut-être un peu schématique, c'est que aujourd'hui l'Europe a pris suffisamment d'importance pour ne laisser finalement à traiter par les États que des problèmes de niveau tactique, et en particulier tactique vis-à-vis de la réglementation européenne. Et donc l'Europe devrait faire de la stratégie. Voilà, c'est un peu ça. Les États font la tactique, l'Europe fait la stratégie. Or, l'Europe est dans l'incapacité de faire de la stratégie parce que la stratégie demande une vision. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir de vision européenne. Donc il y a une espèce d'aporie intellectuelle qui fait qu'au fond, aujourd'hui, en Europe, plus personne ne fait de stratégie.
François Bujon de l'Étang.
Je poursuis ce débat sur l'OTAN, mon général, parce que je crois qu'il est, intéressant. Je partage tout à fait votre sentiment que la composante démographique américaine change, que les racines européennes s'éloignent et que le sergent Ramos va succéder au soldat Ryan.
Il va défendre Madrid alors.
Je vous suis tout à fait. Non, il va défendre.
Il ne sait même pas où est Madrid.
Il va défendre Teotihuacan.
C'est un peu tard. C'est un peu tard, malheureusement, pour défendre Teotihuacan. Non, mais je comprends tout à fait ça. Et ça s'ajoute à la vision obamienne, alors, qui est celle du pivot vers l'Asie, et ce sentiment très profond exprimé par le président Obama, que l'avenir des États-Unis se joue dans l'Asie et dans le Pacifique beaucoup plus que dans l'Europe. En même temps, il y a des pesanteurs qui se manifestent et qu'Obama est le premier à reconnaître. Monsieur Poutine ne partage pas la vision du pivot, finalement. Ça lui est égal, la vision du pivot. Mais Monsieur Poutine a des ambitions. Monsieur Poutine a des revendications. Monsieur Poutine s'est fait l'apologue d'une espèce d'irrédentisme russe, post-soviétique, qui consiste à remettre en cause un certain nombre des acquis de la guerre froide. Je crois que c'est comme ça qu'on peut analyser sa posture. Alors, deux questions viennent de là, et elles viennent, au fond, assez largement de Moscou. La première, est-ce que vraiment le départ d'Europe des États-Unis est irréversible? Est-ce que le sergent Ramos, quoi qu'il en ait, ne sera pas obligé tôt ou tard de se réintéresser lui aussi à la Lituanie, à l'Estonie ou à la frontière orientale de la Pologne? Je dirais, après tout, ce n'est pas sa propension naturelle, mais les pesanteurs de l'histoire sont telles qu'après Obama, après même si c'est Madame Clinton qui lui succède, après tout, c'est elle qui a articulé la doctrine du pivot dans un article célèbre de Foreign Policy, il y aura une autre politique. Ah, si c'est Monsieur Trump, évidemment, il voudra peut-être, lui, suivre votre conseil de retirer les États-Unis de l'OTAN. C'est pas impossible. Mais les choses vont changer. Elles ne vont pas forcément rester telles qu'elles sont. Et puis, la deuxième question qui vient, c'est Moscou, justement. Moscou est l'exemple d'un réarmement moderne. L'armée russe était dans un état abominable il n'y a pas si longtemps encore. On a tous des souvenirs de ces images de la guerre de Géorgie en 2008, montrant des soldats russes manifestement pris de boisson, comme on dit, donnant des coups de pied furibards dans les roues.
Faisant des tartines avec le cirage de leurs chaussures.
Et se faisant, donnant des coups de pied dans les roues d'un véhicule blindé en panne sur les routes. Bon, on n'en est plus là du tout. Et tout ce qu'on a vu en Crimée, tout ce qu'on a vu en Ukraine, montre qu'il y a un changement profond de l'armée russe. Monsieur Poutine a augmenté de façon extraordinaire le budget de défense de la Russie, au point de faire démissionner d'ailleurs son ministre des Finances de l'époque, Alexei Koudrine, qui aujourd'hui encore dit publiquement que cet effort n'est pas à la mesure de ce que peut produire l'économie russe. Alors, quelles leçons peut-on tirer de cet effort de réarmement russe et comment ceci doit-il influencer notre pensée stratégique ?
Général Desportes.
Sur le premier point, je crois qu'il y a deux choses qui s'opposent. Il y a la pesanteur de l'histoire qui existe, mais qui s'allège quand même. Et puis il y a la dérive des continents. Et je crois que entre la pesanteur et la dérive, c'est toujours la dérive qui l'emporte. Et la dérive des continents, elle est quand même ce mouvement de bascule de l'Amérique vers le Pacifique. J'en suis persuadé. On a 15 ans. On a 15 ans pour régler le problème jusqu'en 2040. Hein, jusqu'en 2040, hein, les Américains seront encore majoritairement caucasiens. Après, ils ne le seront plus. Et je dis donc, justement, l'Europe a un créneau pour arriver à régler son problème. C'est ce laps de temps qui nous reste avant ce décrochage que moi, j'estime définitif. Regardez le poids de l'Europe dans le commerce américain. On voit là aussi qu'on a une tendance qui est définitive. Et que donc, on a encore 20 ans, une vingtaine d'années, peut-être 25 ans pour arriver à régler notre problème, on doit saisir ce créneau de temps. En ce qui concerne Moscou, évidemment, la question est importante. Au risque d'être caricatural, moi je pense que, et là je parle sous votre contrôle parce que vous étiez ambassadeur de France aux États-Unis à ce moment-là, je crois que, évidemment, c'est qui a créé M. Poutine, c'est M. Bush. Je crois que le président Clinton n'aurait pas créé M. Poutine. Et c'est bien la politique américaine vis-à-vis de la Russie, avec au moins trois lignes d'opération. La première ligne d'opération, c'est le contournement de la Russie par les républiques d'Asie centrale. Bon, ça a échoué, mais ça a été tenté. Ensuite, il y a le déploiement du bouclier anti-balistique, qui ne peut être vécu que comme agressif par M. Poutine. Et puis, il y a l'élargissement de l'OTAN. Et donc, en fait, moi, je crois que la Russie agressive est juste contre-agressive vis-à-vis d'une politique qu'elle a vécue comme agressive. Alors que M. Poutine joue là-dessus parce qu'il veut rester aux affaires, on est dans un jeu politique à peu près normal. Mais je crois qu'il est aujourd'hui important pour les Européens de comprendre que leur avenir, il est quand même en Eurasie. Il n'est plus vraiment de l'autre côté. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenir des liens extrêmement forts avec ce pays dont nous partageons les valeurs, qui s'appelle les États-Unis. Mais en même temps, nous sommes condamnés à nous entendre avec la Russie, à faire un certain nombre de compromis sur un certain nombre d'idées, peut-être à refaire une grande réingénierie de l'Europe. Les choses changent, les frontières peuvent changer. On les a changées combien de fois en Europe ? On peut encore le faire, hein, pour arriver à trouver un modus vivendi qui nous permette de vivre ensemble dans ce grand ensemble qui est notre ensemble et qui s'appelle l'Eurasie.
Non, juste, mon général, je vous suis tout à fait sur la théorie de la dérive des continents, effectivement, mais je mets un tout petit bémol à la clé, c'est que elle est lente, la dérive des continents. Elle prend plus de temps que les promoteurs ne le voudraient. J'aime bien citer une phrase qui pourrait être du président Obama, qui dit « J'ai le sentiment profond que l'avenir des États-Unis se jouera en Asie et non pas en Europe ». Cette phrase est de Theodore Roosevelt et date de 1905.
Jean-Louis Bourlon.
Oui, justement, je suis exactement sur cette ligne, sur les différences de rythme. Je crois que vous avez tout à fait raison de relever les modifications fondamentales de la démographie américaine. Je pense que malgré tout, l'Europe continuera de se rappeler l'attention des États-Unis. L'Europe a été pour les États-Unis jusqu'en 1940 un modèle. C'était admirable. Ils ont acheté tous les impressionnistes qui prouvent qu'ils admiraient beaucoup la civilisation européenne. Ensuite, ça a été un enjeu. Jusqu'à la chute du mur de Berlin et au démantèlement de l'Union soviétique. Ensuite, les Américains et d'autres ont eu l'illusion que ce n'était ni un modèle, ça c'était vrai, ni un enjeu, puisqu'on avait gagné. On avait gagné la guerre froide, c'était fini, c'était réglé. Bon, et donc, à ce moment-là, il y avait d'autres enjeux qui nous sollicitent, comme diraient les évêques. Ils ont regardé vers les États-Unis, vers le Pacifique. Mais, en réalité, le Moyen-Orient s'est rappelé à eux avec les Twin Towers et Poutine a rappelé l'Union soviétique, a remis l'Union soviétique dans le jeu, la Russie dans le jeu. Donc maintenant, qu'ils le veuillent ou non, Obama ou son successeur sont confrontés, ils ne peuvent pas se désintéresser complètement de l'Europe. Alors là où je vous suis tout à fait, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de mettre des moyens, que le pacifisme ambiant a quand même fait de grands ravages, mais des deux rives, sur les deux rives de l'Atlantique. Et aujourd'hui, ce qui me, quand je parlais de sentiments vertigineux, c'est que autant je crois fonder les critiques que vous faites et le fait que les États-Unis vont avoir du mal à Pompidou était obsédé par ça, hein. Les analyses de Georges-Henri Soutou le montrent dans les années 70, quand il était président, Pompidou était obsédé par le désengagement américain. D'ailleurs, on comprend pas pourquoi il a nommé Jobert dans ces conditions. Mais, il était.
Pour le précipiter.
Oui, oui. C'était, je crois qu'il est, j'avoue qu'il était quand même, malgré ce que disait M. Balladur, il était quand même un peu pas en situation parfaite à la fin de son mandat. Mais en tout cas, il dit les Américains doivent partir et Schmitt et lui, avec d'ailleurs et Giscard avec son philo russe russisme, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retenir. Après Carter a exagéré, a accentué en plus cette tendance au déclin, mais pour retenir les États-Unis. Et ensuite, Mitterrand a fait cette magnifique opération de 83 pour maintenir les euromissiles. Mais tout ça était ressenti, à juste titre, comme une angoisse par des gens qui savaient que si on avait échoué après la Première Guerre mondiale, c'est précisément parce qu'on n'avait pas su retenir les États-Unis. C'est précisément parce que les États-Unis n'avaient pas ratifié le traité de Versailles et parce que, donc, les engagements qui avaient été pris, qui étaient la clé de l'équilibre européen, ne pouvaient pas être tenus et que, donc, l'équilibre européen dépendait de la France, c'est-à-dire d'un pays qui n'était pas capable, en termes de puissance, de l'assumer. Donc tout ça est très présent et ça reste. Simplement, on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de mobiliser les moyens, on veut, comme selon l'expression de Laurent Fabius de l'époque, on veut percevoir les dividendes de la paix. Et quand on regarde les enquêtes, notamment une enquête du Pew Center que j'avais vue, c'est accablant. C'est accablant de voir comment les opinions européennes, notamment l'opinion allemande, mais pas seulement l'opinion allemande, dit, bon, agression russe sur un pays membre de l'OTAN, pays balte par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Se battre, être solidaire ou négocier? Réponse absolue, immédiate, négocier. Il y a un effondrement par rapport à la situation de 83, un effondrement de la capacité de défense qui est quand même quelque chose de tout à fait préoccupant.
Général Desportes.
Et je crois que ça va conduire, je termine juste par cette phrase, je crois que ça conduit en réalité les Européens à s'aligner sur une politique à la Merkel qui consiste à dire, bon, bah, on va s'arranger, on va payer le prix avec les Russes, on va leur faire quelques bonnes grâces et on va essayer de passer entre les
Général Desportes.
Mais vous avez raison. D'ailleurs, si les Russes s'emparent de la Crimée, c'est bien parce qu'ils ont compris que les Américains avaient des capacités militaires absolument considérables, les Européens aussi, mais que quoi qu'il arrive, on les utiliserait pas. Et c'est pour ça que la démilitarisation de l'Europe pose un véritable problème aujourd'hui. Le monde reste un monde de rapports de force, et si vous n'êtes pas fort, eh bien vous n'êtes pas considéré, en particulier par ceux qui ne considèrent que la force comme argument essentiel, dont M. Poutine. Alors, vous dites, on a toujours eu cette crainte du départ des États-Unis. Ben oui, puisque le premier qui l'a eu fondamentalement, c'est le général de Gaulle. Hein, la dissuasion, la position stratégique française, elle est d'abord basée sur cette crainte-là. Alors, si c'était vrai déjà au tournant des années 50, ça l'est encore plus maintenant. Et je dirais que par facilité et à cause du phénomène dont vous citiez tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, que j'appelle le phénomène du marchand de sable nucléaire, eh ben on a laissé croire, mais on pourrait aussi parler du marchand de sable américain. C'est-à-dire qu'on a laissé croire qu'on était défendu, et au moment de la crise financière en particulier, ça a permis à tous les gouvernements européens de faire des économies à bas coût politique en expliquant, on économise sur la défense, mais ne vous en faites pas, on a la bombe pour nous, et puis en plus, on est défendu par les Américains. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut simplement voir les choses en face, être un peu réaliste et adresser les vrais problèmes.
Nicole Nézotto.
Oui, toujours sur ce point, et ensuite un point sur la Russie. S'agissant de l'avenir de l'Europe de la défense, il y a effectivement les réalités et puis les perceptions. Les perceptions majoritaires en Europe, c'est que les Américains seront toujours là. Quoi qu'il
bien
arrive,
sûr,
quelles que soient les tentations asiatiques, ils seront toujours là parce que la Russie sera toujours là. Et puis maintenant, d'ailleurs, la mondialisation économique les pousse même à revenir un peu en Europe par la négociation d'un grand traité, TAFTA, etc., etc. Ça, c'est la perception de la plupart, d'une 90% des Européens. La réalité, c'est que les Américains ont envie, non pas, je crois, de quitter l'Europe, mais d'avoir plus de marge de manœuvre. Il faut que le président des États-Unis ait plus qu'une option face aux multiples crises qui éclatent en Biélorussie ou au Haut-Karabakh, qu'ils ne se sentent pas contraints via l'OTAN à être obligé, je reprends une expression du général de Gaulle, à faire des guerres qui ne sont pas les siennes. Donc on a plutôt une Amérique qui est aujourd'hui assez gaulliste, c'est-à-dire elle veut toutes les marges de manœuvre possibles. Et donc l'OTAN, oui, mais pas au point de contraindre l'Amérique. Et donc dans cette, on a cette tension, mais cette tension, me semble-t-il, entre les Européens qui veulent que l'Amérique reste et les Américains qui veulent plus de marges de manœuvre, on a une très grande place pour des initiatives européennes. Il ne s'agit pas de remplacer la protection américaine, il ne s'agit pas de construire une Europe de la défense nucléaire, mais on a dans cette marge beaucoup de marge de manœuvre pour faire des choses. Et donc ça, c'était une de mes premières questions. Quelle serait l'initiative, peut-être franco-allemande ou française, je ne sais pas, notamment après l'affaire du Brexit, pour montrer aux Anglais que quand même, on a d'autres idées que le Brexit.
Une initiative franco-française.
Est-ce qu'on ne peut pas avoir une initiative franco-allemande sur cette question, non pas de l'Europe de la défense, pas quelque chose de militaire, mais de l'Europe stratégique, de l'Europe politique. Ça, c'est mon premier point. Ma deuxième point, c'est sur la Russie. Moi, je partage complètement votre analyse sur la responsabilité, alors je dirais globalement des Occidentaux, mais certainement des Américains, sur, à partir de 91, notre responsabilité sur le non-accompagnement de la défaite soviétique. C'est-à-dire, on a eu une politique très triomphaliste, et même quand Gorbatchev a proposé la maison commune, à part le président Mitterrand qui avait trouvé qu'il y avait là quelque chose d'intelligent, même s'il a exagéré, il a dit oui, mais sans les Américains, ce qui ne pouvait pas passer. Mais il y avait quand même une marge, une possibilité là de rétablir de nouvelles relations avec la Russie. On a raté cette occasion. Maintenant, je crois que c'est trop tard. On a aujourd'hui une Russie qui est agressive sur l'Europe, enfin, ou du moins, on a une Russie qui est contradictoire, elle est agressive sur l'Europe, elle est notre adversaire sur l'ordre européen, parce que elle veut effectivement le remettre en cause, mais elle est notre partenaire sur Daesh. Sans les interventions russes depuis septembre, je crois qu'on n'aurait pas eu les succès dont on se vante aujourd'hui contre le Daesh. Et donc, ça c'est ma deuxième question, comment gérer un immense pays qui est à la fois notre ennemi sur l'ordre démocratique européen et notre partenaire dans la lutte contre Daesh.
Corollaire, la Russie s'intéresse aussi à l'Asie. Et même, elle s'y intéresse de plus en plus. Et ce qui fait que le basculement des Américains vers l'Asie est une chose, mais en basculant vers l'Asie,
on retrouve la Russie.
Et en retrouvant la Russie, on nous retrouve, si je puis dire.
L'Asie s'intéresse à la Russie aussi et bascule sur l'Europe.
aux abris. Général Desportes.
Alors, vous avez raison devant le constat de la vanité actuelle de l'Europe de la défense, ou du vide, du vide. Alors, quelle initiative? Alors, ce que je constate, encore une fois, c'est que le process lancé depuis 60 ans n'a rien produit. Donc, il faut changer de process. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était que, finalement, on pouvait construire l'Europe de la défense par le bas. On faisait des petits morceaux de défense et que ça allait faire une défense commune. Bon, ça ne marche pas. Et si on n'a pas de vision, c'est normal, puisque l'armée est au service d'une politique. Tant qu'il n'y a pas de politique, il ne peut pas y avoir d'armée. Fondamentalement, c'est ça. Donc je crois fondamentalement que l'initiative... Moi, j'utilise le paradigme de la mayonnaise. C'est un peu simpliste. Qu'est-ce que c'est la mayonnaise? C'est un truc, vous mettez un œuf, vous mettez de la moutarde et vous mettez un peu d'huile. Et puis vous touillez. Et si au bout de 60 ans, vous apercevez que ça n'a toujours pas pris, il faut arrêter de touiller, parce que vous allez pouvoir touiller encore pendant 60 ans.
Il faut acheter de la mayonnaise toute faite.
Alors, oui, mais ça n'existe pas. C'est un rêve.
Il faut changer de sauce.
Il faut surtout dire, OK, ça ne marche pas, je reprends un œuf, je reprends de la moutarde, et puis je remets après, petit à petit, la mayonnaise. Donc je pense que l'œuf et la moutarde, c'est quand même fondamentalement la France et l'Allemagne, et puis on va touiller un peu, et c'est un peu le problème de toute l'Europe. Les processus n'ont pas fonctionné, changeons de processus. En ce qui concerne la Russie, je constate que vous, comme vous, que la Russie avance au Moyen-Orient. Elle avance parce qu'elle a un stratège à sa tête qui s'appelle Poutine. Eux, la Russie, ont un stratège. Pourquoi? Parce qu'il a une ambition, alors que l'Europe n'a pas d'ambition. Poutine sait ce qu'il veut faire. Il veut une grande Russie qui revienne dans les affaires du monde. Et il s'en donne les moyens. Donc dans cette affaire-là, on a un stratège qui s'appelle Monsieur Poutine, alors que l'Europe n'en a pas, et que les États-Unis n'en ont pas non plus, puisque Monsieur Poutine a été suffisamment intelligent pour faire donner le prix Nobel de la paix à Monsieur Obama, ce qui a réglé le problème des États-Unis pour 8 ans. Donc, c'est pour ça que je crois qu'avec la Russie, vous dites, c'est fini, on a raté, on va repartir vers une guerre froide. C'est un peu ce que vous dites. Je dis non, on ne peut pas admettre ça. Il faut comprendre que la politique américaine en Europe vis-à-vis de M. Poutine n'est pas dans l'intérêt des Européens. Et donc faire entendre une voix européenne qui fasse valoir les intérêts européens. Et peut-être que le Brexit nous poussera à le faire.
Il y a eu, mon général, quelques collaboration entre des armées européennes en dehors de l'OTAN. Il y a eu cette brigade franco-allemande, et puis sur certains terrains de manœuvre dans la lutte contre le terrorisme, il y a des actions communes, disons. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer, et est-ce qu'il y a des directions d'une coopération intensifiée à imaginer à partir de ces expériences sur le terrain?
Sûrement. Alors, la brigade franco-allemande, c'est intéressant, parce que on voit que c'est un échec. On voit que c'est un échec, et on a compris. La brigade franco-allemande n'a jamais été déployée sur le terrain. Elle a été déployée, mais à des endroits différents. En Afghanistan, les Allemands au nord, les Français au sud, on l'a jamais déployée en tant qu'unité opérationnelle. Là, on a appris quelque chose, c'est que, par exemple, ce niveau d'intégration est trop bas. Dans une brigade, il faut que les gens se comprennent parfaitement. Et voilà. Donc, on a appris ça. Et on a appris aussi que tant qu'on n'a pas une vision commune du monde, ben on ne peut pas engager un outil de coalition. Hein. Pourquoi est-ce que les affaires fonctionnent correctement pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est parce que progressivement, de la conférence de Terre-Neuve fin 40 jusqu'à celle de Yalta, ou de Potsdam plutôt, eh bien, M. Churchill, plus Roosevelt, et Staline se mettent d'accord sur une vision. Et alors, on fait travailler ensemble des armées qui parlent des langues différentes. Mais tant qu'on n'a pas cette vision-là, ça ne fonctionne pas. Ce qui m'appelle bien à dire, tant qu'on n'a pas cette vision-là, il faut que la France conserve les moyens de sa propre défense.
François Bujon de l'Étang.
Au général, il y a dans votre livre et dans plusieurs de vos articles ou interventions un point qui revient comme un leitmotiv sur la dérive technologique que je trouve très intéressant. Vous dites que les armées françaises suivent le modèle américain et qu'elles recherchent en permanence une meilleure technologie sans avoir le souci de l'efficacité globale des systèmes. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve cet argument dans le domaine du renseignement, où on reproche aux Américains la dérive technologique, alors que nous, nous en remettons encore à des vieux modèles, comme celui du renseignement humain. Comment peut-on faire pour éviter la dérive technologique
Général
et pour
Desportes.
Avoir une armée plus
Général
efficace
Desportes.
Je crois que d'abord, il faut en prendre conscience. Et là encore, il faut voir que les grandes tendances et voir que l'effet ciseau de l'accroissement considérable du coût des équipements militaires dû à la dérive technologique croisée avec la diminution des budgets fait que nous avons une micro-armée, un petit kit expéditionnaire. Donc, prendre conscience que la voie que nous suivons est mauvaise. Donc, il faut remettre la technologie à sa place. Ça n'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est la technologie sacralisée, la technologie pour elle-même. Et comprendre que si les Américains arrivent à avoir à la fois la meilleure technologie et le nombre, c'est parce que leurs budgets militaires sont considérables. Un Américain de base dépense 3 fois plus pour la défense qu'un Français. Et donc, forcément, on peut conserver à la fois la masse et la technologie. Tant qu'on n'admet pas ce besoin des masses budgétaires, eh bien, il faut choisir. Et aujourd'hui, donc, on ne peut pas, nous, avoir la meilleure technologie américaine et des armées capables de produire non pas des résultats techniques, on sait le faire, mais des résultats stratégiques sur le temps long et dans de vastes espaces.
Il faut donc garder le sens du format.
Il faut garder le sens du format, absolument, monsieur l'ambassadeur.
Jean-Louis Bourlanges, pour 30 secondes.
Juste, quand on vous écoute, avec toutes les apories que vous dénoncez, les impasses que vous dénoncez, on a l'impression qu'il n'y a en fait que deux options. L'indépendance nationale à la De Gaulle ou la Fédération européenne. Que tout ce qui est intermédiaire ne marche pas. Comment ressentez-vous ce dilemme qui, à mon avis, ne vous enchante pas ?
Général Desportes.
Alors, vous voyez, moi, je crois profondément à la France. C'est bien ce qui me fait agir, c'est bien ce qui me fait écrire. Donc, la fédération, je ne suis pas extrêmement favorable. La confédération, oui. Alors, tout ça est gaullien, naturellement. Oui, oui. Mais je crois que c'est vrai. La France n'est plus, et justement, c'est pour ça qu'il y a une urgence de l'Europe. Il y a un besoin d'Europe. Mais on ne fera pas l'Europe en continuant à suivre des procédés qui ont échoué depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il faut arriver absolument à concilier la France, qui est un grand pays, un pays remarquable, et la nécessité de l'Europe.
Merci, Général Desportes. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Bastien Varigaud. La semaine prochaine, donc, comme je l'ai annoncé, les 3 dernières émissions thématiques, celles que nous venons de diffuser avec le général Desportes, celles de la semaine prochaine et celles de la semaine suivante, ne sont plus consacrées au pays, comme nous l'avions fait pour les premières, mais consacrées à des questions indépendantes les unes des autres, si tant est que quoi que ce soit puisse être encore indépendant de quoi que ce soit en ce bas monde. En tout cas, nous recevrons la semaine prochaine le professeur Arnaud Fontanet, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers et qui est responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et avec lui, nous parlerons des pandémies et de la précaution. J'espère vous retrouver pour cette nouvelle et avant-dernière émission thématique.